Alors, la vaccination, où en sommes-nous en France? Bon, bah pas terrible. 4 100 000 vaccinés en France. Pour tout vous dire, il y a 2 700 personnes qui ont reçu une dose, 1 400 000 de doses. On a un stock encore sous le coup de 3 700 000 de doses en attendant les autres. Bon, ce qui nous fait au pourcentage à peu près 4% de Français vaccinés. Donc, il faut arriver à 60% pour espérer une immunité collective. Alors j'ai été jeter un petit coup d'œil ailleurs, hein, pour voir à peu près où ça allait. Alors Israël, évidemment, sont sur un autre concept, ils sont à 37%, la Grande-Bretagne à 27%, l'Allemagne à 4,3%, l'Espagne à 4,4%, l'Italie à 4,9%. On se rend compte quand même que au niveau de l'Europe, on est quand même tous à peu près, j'allais dire, logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on avance doucement. Hein. Alors c'est nous, c'est pas trop vite le matin et doucement le soir, visiblement.
Alors
hein.
Dans les statistiques que tu donnes, j'en ai une aussi qui est pas mal.
Oui, c'est laquelle?
C'est que 10 pays ont consommé 90% des produits, des vaccins produits dans le monde.
Oui.
Donc ça veut dire que notamment les pays européens que dont Israël bien sûr, les États-Unis.
Oui, les États-Unis aussi, ils sont à 13,5%.
Les États-Unis, les Anglais et les pays européens. Ouais. Ça veut dire que quand on parle d'immunité mondiale, il faudrait que tout le monde arrive à tu vois, si tu veux stopper le Covid. Sauf que aujourd'hui, il y a 10 pays qui ont consommé 90% des vaccins produits.
Ça fait un peu penser aux richesses.
Hein. Non, mais notre problème central sur la question du vaccin, à mon avis, en France, c'est qu'on est un pays techno, quoi. C'est-à-dire qu'on est de techno, hein, j'ai dit pas de pecno.
Soyons d'accord. Oui, on a bien compris.
Mal finir. Là,
mais les technocrates au pouvoir, si tu veux, ça fait ça. Aujourd'hui, par exemple, le vaccin AstraZeneca.
Ouais.
Pour les médecins généralistes qui peuvent vacciner, accrochez-vous bien. Une dose, tu en as 10 dedans.
Ouais.
Donc il faut que tu fasses les 10 vaccins à la chaîne parce que sinon tu peux
pas. Oui. Bon.
Mais sauf qu'en fait, tu as le droit de vacciner que les plus de 65 ans, à risque, machin, tout ça.
Aujourd'hui.
Donc il faut que le médecin regarde dans sa patientèle.
Bah, ce qui est normal.
Les personnes qui sont éligibles, machin.
Bah, ce qui est plutôt une bonne idée.
D'accord. Donc après, il faut qu'il les convoque. Oui. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez venir le 11? Oui, bah non, je peux pas. Le 11, j'ai bridge, j'ai machin, tout ça.
Bah, tu te démerdes.
Je viens le 12. Et moi, il me faut 10 patients parce que si j'ai pas les 10 patients, je suis obligé de jeter les doses. Donc en fait, je dois programmer 10. Non, mais tu vois les médecins faire ça? T'en vois combien aujourd'hui faire ça?
C'est ce qu'il faut faire.
On est en train de faire un truc. On a créé, mais si tu veux, franchement, j'ai vu les notes du ministère de la Santé pour expliquer la façon de vacciner pour les médecins. Mais si tu veux, autant ne rien faire, c'est pareil. C'est pareil.
En tout cas,
il y a un moment, il faut
problème,
assumer. Si on fait une vaccination.
S'il vous plaît.
Non, mais dans ces cas-là, il faut y aller franco. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vaccines. Et puis, t'arrêtes de regarder un petit peu les trucs. Ok, tu vaccines les plus 65, les plus 75, machin, des centres de vaccination où tous les plus 70, ils peuvent venir, mais il faut que t'aies les stocks.
Et ben voilà. Les stocks.
Excusez-moi, ils sont où les stocks?
Et ben, on va poser la question.
Soi-disant, on en a 200 millions. Je sais pas où ils sont.
On va poser.
Les stocks, ils sont répartis par l'Europe.
Est-ce que vous pouvez vous taire?
Non.
Non.
On va poser la question à Louis, qui est avec nous, si je crois. Il avait raison peut-être, parce que si on n'accélère pas, si on voit pas les vaccins arriver, et c'est Loulou qui aura raison en annonçant la dernière fois que tout le monde serait vacciné en 2025. C'était bien ça, Loulou?
Tout à fait, je persiste et je signe. Bonjour mes amis les Cocaliens, bonjour.
Louis Albrand qui est avec nous.
C'est intéressant ce qui se passe actuellement, c'est intéressant parce que, comme tu le dis, on avait vu juste à Briançon en disant que les variants anglais allaient envahir le pays. Aujourd'hui, c'est 80% dans 20 départements. Mmh. Je pense que vendredi prochain, on aura du 100% variant anglais, ce qui n'est pas dramatique parce qu'il est guère plus dangereux, il est plus contagieux.
Ouais.
Donc, c'est pour cela qu'il y a... Mais le drame, c'est qu'on n'a pas pu augmenter les capacités d'accueil en réanimation. Et comme vous l'évoquiez, on ne sera pas vacciné en France avant, et je persiste très longtemps, parce que c'est pas avec 10 vaccinations par semaine pour les généralistes.
Ouais.
Rien n'est prévu pour les 65-75 ans auxquels j'appartiens. J'ai téléphoné hier pour des patients, parce que je suis quelques malades dans le haut du département, qui ont plus de 75 ans. À Briançon, ça ne répond plus. On me dit que le récepteur téléphonique est complet. Et en vrai, on me dit, oh là là, mettez-vous sur liste d'attente. Donc actuellement, on sera pratiquement plus vaccinés dans les Hautes-Alpes. D'autant que les vaccins maintenant vont aller vers les zones comme Nice, ou le nord de la France, ou l'Île-de-France, qui va être bientôt d'ailleurs aussi menacée par les variants. Donc, tu disais 60%, non, c'est 80% de vaccinés pour avoir une certaine immunité collective.
Ouais, enfin, j'annonçais 60. 60, c'est peut-être un début, hein. Avec un 60, on pourrait commencer.
Tu as raison, parce qu'il y a 15% de gens qui ont eu la maladie, pratiquement. Ouais, 15 à 16% de gens qui ont eu la maladie.
Arriver à 60, ça serait déjà pas mal.
Oui, ce serait déjà pas mal, mais ça, je te dis, c'est fin 2024, au rythme en 2025.
Moi, j'ai une question.
Loulou, il y a Christophe qui veut te poser une question.
Oui, je t'écoute, Christophe.
Ouais, salut. Qu'est-ce qu'on fait quand les variants qui vont arriver, ils vont plus être sensibles au vaccin?
Ah non, alors il y a une bonne nouvelle, c'est le variant brésilien n'était pas sensible au Pfizer et à un autre variant, et à un autre vaccin. Donc les autres variants, dont le sud-africain et l'anglais, sont sensibles au vaccin, heureusement.
Parce que moi, ce qui me fait très peur dans cette affaire-là, si tu veux, c'est que ça soit comme la grippe et que tous les ans, c'est à muter.
Oui.
Et que globalement, en fait, tu sois obligé de refaire et en fait,
d'améliorer ton vaccin.
Mais tu as tout à fait raison.
Mais c'est ce qui existe. C'est ce qui existe.
Sauf qu'on vaccine jamais toute la population pour la grippe chaque année.
Bien sûr.
Il faudra vacciner chaque année la population. Oui. C'est pour ça. Il faudrait commencer à vacciner 24 heures par jour. 7 jours sur 7, et commencer à créer des usines et des centres pour fabriquer les vaccins en France. Et c'est
jamais.
Là où vraiment on est vraiment insignifiant. Quand je vois le président hier, dans le geste de générosité, dire on va aider nos amis africains, d'accord, mais quand les généralistes français ne peuvent en faire que 10 par semaine, et si les présidents de la France, avant tout, il faudrait déjà s'occuper des Français, ça fait un peu en fumage.
Oui, non, mais attends, là tu parles du système COVAX, si je ne m'abuse, qui est un système qui a été mis en place par l'Europe de manière à pouvoir.
Oui, c'est très bien, mais ce que je veux dire,
c'est important.
Je suis d'accord avec COVAX, il faut aider les Africains, je suis d'accord. Mais
ça
hier soir, le président a quand même, si je peux dire, il pense comme moi, il pense qu'on n'aura pas réglé le problème avant longtemps. Il a dit à la fin de l'année, on verra à la fin de l'année. Donc, à mon avis, les stations de ski n'ouvriront pas en décembre prochain.
Mais le problème, c'est qu'à mon avis, pendant des années, on va devoir vivre avec ce virus. Donc, il y a deux solutions. Soit à chaque fois que ça monte, on se confine, on déconfine, on reconfine. Enfin, moi, j'y crois pas, ça tiendra pas des années, ça. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Alors,
est-ce qu'on considère qu'on va réussir à vacciner toute une population tous les ans? Parce qu'il y aura des variants et que du coup ça va durer. Comment on vit économiquement? Comment on se protège? Qui on protège? Et en fait, finalement, c'est peut-être des questions qu'il faut se reposer. Je pense que toute la stratégie qu'on adopte face à ce virus, mais qui est évolutive, heureusement et évidemment, puisqu'on le connaissait pas avant. C'est comment on fait pour le gérer sur le temps long. Maintenant, c'est plus en fait la question de savoir comment on gère sur le temps court.
Moi, je suis d'accord avec ça. Excuse-moi, Thierry. Non, mais tu nous invites, il faut qu'on parle.
Et puis on gêne pas.
On laisse parler.
Moi, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que on remet tout le temps sur la table le problème, la difficulté d'avoir des vaccins, le problème de la division des doses, des rendez-vous, des machins et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vivre tous les jours avec?
Ça.
Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pourquoi nous mettrons, arrêtons les PGE, enfin, on peut pas les arrêter comme ça, mais arrêtons de tout miser sur l'arrêt de l'économie et mettons plus d'argent sur les hôpitaux en disant soignons les gens, organisons-nous pour les soigner. Alors, s'il faut des lits supplémentaires à rien, on les met. S'il faut former du personnel en plus, on les met. Mais on voit bien qu'on va, gérer toutes les années qui vont arriver, des problèmes de crise. Essayons d'anticiper. Mmh. On fait rien pour anticiper. Moi, je suis comme Christophe et j'ai compris qu'on allait vivre avec ce truc-là, comme la grippe. De toute façon, on n'arrivera pas à vacciner tout le monde.
On gérera deux semaines, tu vois. Alors qu'on devrait maintenant gérer à 20 ans cette affaire. C'est-à-dire que là, et je sais pas ce que font nos autorités.
L'avenir.
Moi, je suis très inquiet, si tu veux. Pourquoi l'exemple du vaccin est intéressant? C'est parce que le vaccin, tel qu'il est géré, ça préjuge mal de ce qui va se passer sur la vision à long terme, quoi.
Et c'est pas un problème politique de gouvernance, quoi. C'est qu'il faut une vision.
Il faut fixer une vision.
Parlons de l'avenir de la pandémie. Comment on voit l'avenir de la pandémie? Une question qui a été posée au professeur Pité. Je sais pas. Loulou, tu es toujours là?
Il y a tellement de professeurs.
Oui, Pité, je le connais. C'est un homme de Genève, un médecin de Genève.
Voilà. Alors, écoutez sa prévision.
Je crois que là, on va vivre encore deux mois, un mois et demi, où on est encore en hiver, hiver, début du printemps. On sait que les virus respiratoires aiment cette période. Donc, il va falloir passer à travers cette période-là. Et puis ensuite, il y aura la campagne de vaccination avec tous ces vaccins dont on va pouvoir disposer. Et on va pouvoir faire un premier bilan à l'été, au début de l'été. Mais ensuite, on va se propulser vers l'automne. Et à ce moment-là, il y aura certainement d'autres variants. Peut-être qu'il faudra d'autres vaccins. Et il faudra encore pouvoir passer un automne qui ne sera pas un automne normal. Et l'automne, ensuite l'hiver. Et je crois que c'est en été 2022 qu'on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation. Et probablement que là, tout sera beaucoup plus facile.
Tout sera beaucoup plus facile. Tu es d'accord avec sa prévision, Loulou?
Oh, je pense quoi. Il a été nommé par M. Macron, président de je sais quelle association. Non, mais il est très sympathique, notre ami. Mais c'est ridicule. Bon.
Ah bon, d'accord. Ridicule. Toi, tu crois que 2022, on verra pas le jour?
Absolument. Mais 2022, rien ne sera réglé. Mais vous venez d'évoquer la chose essentielle. Il n'y a pas de prospective. Il n'y a pas de construction d'usines de vaccins. Il n'y a pas de méthode.
Et puis même la formation.
Tout le monde.
Tiens, les Lidréa, tu peux ouvrir autant de Lidréa que tu veux.
Oui, non, mais ça, c'est pas une solution.
Si t'as personne pour soigner.
Exactement.
Médecin, c'est 10 ans, hein, donc,
il y a des tabous au niveau des ARS. On a dit qu'il fallait plus augmenter les lits dans les hôpitaux. Ils augmenteront pas. Et puis, en plus, le problème est en train, vous l'avez compris, la présidentielle arrive et est en train de se politiser.
Cristalliser, hein. Tout à fait.
Alors oui. Maintenant, en fait, la faute, il faut pas nous mettre sous le taux du gouvernement. La Commission européenne qui a mal négocié l'achat des vaccins, qui a pas voulu payer assez cher, et les vaccins sont partis ailleurs. D'ailleurs, notre ami Michel Barnier, qui pensait revenir dans la course à la présidentielle, est complètement
out.
Parce que la presse européenne commence à dire tous les jours que la Commission européenne a fait une grosse erreur, qu'on va payer très cher le fiasco de la Commission européenne sur les vaccins, on va le payer pendant des années sur le plan économique.
Bon, ben voilà, des perspectives intéressantes. Merci, Louis.
Voilà, allez, à la prochaine. Bonne journée, les amis.
Si je peux me permettre de conclure très rapidement, je dirais que...
Vas-y, vas-y.
On m'a toujours dit gouverner, c'est prévoir. Alors, on n'a pas été gouverné parce que, manifestement, il y a eu un manque de prévision.
Ouais, on n'a pas vu. On n'a pas vu assez loin. Mais les prévisions, elles datent pas d'aujourd'hui, quoi.
Je critique souvent le gouvernement. Là, en l'occurrence, ce qui serait bien, je l'ai déjà dit d'ailleurs à ce micro, c'est même pas tellement que ils anticipent tout, parce que c'est quelque chose qui est tellement évolutif. Bon, par contre, il faut donner maintenant des perspectives de long terme, mais surtout, je voudrais qu'ils nous disent la vérité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ne nous disent pas combien de vaccins, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. En fait, on a l'impression, c'était pareil sur les masques, c'était la même chose. T'as le droit de dire, quand tu gouvernes face à cette épidémie, que des fois, tu n'as pas toutes les infos.
Et je te les ai donné les infos tout à l'heure.
Mais eux, ils ont le droit de dire où est-ce qu'ils en sont exactement, dans les doses, dans les machins. Pourquoi aujourd'hui on réduit une moitié dans certains endroits? Moi, c'est ça que je demanderais au gouvernement, c'est d'être transparent et donner de la visibilité et un cap.
Au niveau de la transparence, les chiffres, tu les trouves.
Oui, mais sur le nombre de personnes qui sont vaccinées, machin. C'est-à-dire que, il en reste combien, comment ça marche.
Honnêtement, moi,
c'est hyper évolutif. Toutes les semaines, ils changent de méthode.
Non, il y a un site qui regroupe absolument toutes les données.
Mais moi, je te parle pas que du vaccin. Moi, je te dis juste, à un moment, c'est 18h.
Le Covid traceur, là.
Qu'est-ce que ça veut dire, les nouvelles orientations? Alors, il y a 20 départements maintenant qui sont ciblés, alerte, machin, je sais pas quoi.
Oui.
On change les couleurs, les alertes. Il y a des trucs, toutes les semaines.
Mais t'es obligé.
Toutes les semaines.
Alors, attends. Là, moi,
c'est pas lisible. Il faut qu'il y ait une stratégie.
Mais
un peu lisible.
Non, mais tu as noté, Christophe, que depuis un an, ça ne fait que bouger bouger. Moi, je veux pas les défendre, mais sur ce coup-là, ils sont bien obligés de s'adapter à ce qui se passe.
Moi, je trouve que c'est juste la lisibilité.
Moi, simplement.
Mais lisibilité de quoi? Comment veux-tu avoir une lisibilité alors que tu sais pas si la semaine prochaine tu seras obligé de fermer un département?
Je te dis pas ça. Je te dis qu'une semaine sur l'autre, tu peux pas changer toutes les nomenclatures, toutes les façons de faire, toutes les process. Enfin, c'est forcément, à un moment, ça devient le bazar.
Jeannot.
Moi, je pense qu'il faut déplorer avant tout notre absence industrielle sur le sujet.
Ça aussi, ouais.
Toi qui es peut-être un futur porteur de mandat national ou un cabinet ministériel comme tu en as fait partie.
Ou peut-être futur président, on ne sait pas.
On va savoir.
On ne sait pas.
On va vite en affaire, là.
Mais cela étant,
je me demande s'il n'y a pas un variant marseillais.
La position de la France s'est affaiblie, ça continue de s'affaiblir à tous les niveaux, au niveau de la recherche, au niveau du développement, et au niveau de l'industrialisation qui suit ce nécessaire process. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors du coup. Les instituts comme l'Institut Pasteur, c'est pareil. Un Pasteur, ça a été l'inventeur du vaccin.
Oui, la ramasse.
Aujourd'hui, on est de la ramasse. Voilà.
Ouais. Tu as vu que les Américains sortent leur Johnson & Johnson, hein? Moi, je m'étais dit, on aurait pu sortir, nous, le Dupont et Dupont, hein? Ça aurait été sympa. Le seul vaccin avec aucun effet secondaire. Et pour cause, il n'existe pas.
Bah ouais.
Donc ça, c'est quoi?
Ah si, on a le Tintin et Milou. Ah non, c'est les Belges.
Non, mais tu vois, et l'Institut Pasteur, ça, c'est un bon exemple.
Bah oui, tout à fait.
Les chercheurs de l'Institut Pasteur, ils sont sous-payés.
C'est-à-dire que pour rester à l'Institut Pasteur, pour pas aller justement dans les grands labos,
c'est pour
aux
ça
États-Unis
ou ailleurs.
Mais bien sûr. Donc ceux qui sont là, ils y sont presque pour la gloire. Et donc à un moment, ça a été d'ailleurs écrit dans certains articles. Tu vois, à l'Institut Pasteur, les chercheurs en fait se tirent la bourre entre eux et ils fonctionnent en silo. Ils veulent pas se parler parce que la seule chose qui peut les valoriser à la fin, c'est d'avoir trouvé quelque chose. Et donc, mais bien sûr, c'est pas l'argent. Et donc, quand ils ont trouvé, c'est la source de valorisation. Donc ils veulent pas que ça soit celui d'à côté. Donc en fait, ils se tirent la bourre à l'intérieur du même institut et du coup, tu te retrouves avec cette situation.
Alors, contrairement à ce qu'on croit, les États-Unis, c'est au contraire un pool. Une équipe qui gagne, et comme on l'a bien vu lorsque il y a eu l'atterrissage sur Mars.
Il les paye, hein.
C'est génial, quoi.
Oui.
C'est exactement ce que dit le docteur Raoul. Hein. Parce qu'il dit.
Raoul?
Oui, Raoul.
Ouais, alors, c'est exactement, que dis-moi, Raoul.
C'est exactement ce qu'il dit.
Il
dit
boy soft,
tu connais pas Raoul, toi.
Non, mais il dit.
Au quatre coins de Marseille, on va le retrouver.
Ça y est, Thierry, il part en live, là.
Éparpillé façon puzzle.
Mais c'est vrai, il dit de toute façon en France, la seule façon d'exister dans la recherche, c'est de trouver.
Bien
donc
sûr.
Ils communiquent pas entre eux et ils ont très peu de moyens entre
bien
eux.
Sûr.
Et c'est pas fongide. Hein. Donc
ah non, mais c'est une
problème.
Catastrophe.
Mais par contre, Louis Albrun, il a quand même dit quelque chose de très grave. Moi, je pense.
Ah bon?
Ouais.
C'est Loulou, t'es encore là?
Il dit, on a refusé de payer le prix.
Le prix fort. Ce que Israël a payé.
Est-ce que c'est pas scandaleux ça?
Pourquoi
dans une pandémie mondiale, est-ce que c'est pas scandaleux
de payer le prix de ne pas payer?
Oui,
de faire. Ah ben c'est ce qu'a fait Israël.
Oui.
Israël.
Oui,
mais
alors
attends, mais moi je suis d'accord.
Non. De toute façon là, regardez, j'ai baissé les micros.
Le scandale, il n'est pas là. Il a raison, Bruno. Le scandale, il est que les pays européens, ils ont acheté à un prix et que les laboratoires, ils n'ont pas livré.
Ouais.
Ils ont préféré livrer différent. À ceux qui payaient plus cher. Et ça, c'est grave.
Ils ont spéculé. Il y a eu de la spéculation
mais ça, c'est grave.
Là-dessus.
Attends.
C'est bien plus grave ça que l'Union européenne cherche à acheter moins cher les vaccins. Moi, ça me semble normal.
Moi, ce que je voulais dire seulement, parce que tout le monde prend l'exemple d'Israël en disant ils sont formidables.
Ils ont payé x2.
Alors, ils ont payé x2.
Hein.
Ils ont payé x2 d'une part. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ils ont balancé donc. Tous les dossiers des Israéliens à Pfizer, de manière à ce que Pfizer puisse faire donc une étude à côté. C'est-à-dire tous les données personnelles ont été balancées au laboratoire. Imaginez en France que on fasse ce que a fait Israël, mais c'était la révolution.
Là, heureusement,
qui montait, il y avait tout le monde qui montait au créneau, tous les politiques. Parce que les gens disent, regardez Israël, ils sont formidables. Oui, mais ils ne connaissent pas et les deux sont quand même.
Pfizer,
et ça,
c'est
important de dire quoi.
Il y a des capitaux juifs aussi. Hein.
C'est non, mais moi, franchement,
Pfizer, c'est contrôlé par les juifs. Hein.
Non mais ça c'est, on
ça,
s'en fout ça.
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire tiens bon.
Mais non,
franchement
mais
c'est pas le sujet. Franchement, Israël, ils ont effectivement payé très cher et ils ont donné des contreparties. Nous moi je trouve ça plutôt bien que l'Union européenne ait négocié les prix des et le vrai scandale c'est que des laboratoires ne tiennent pas leurs engagements contractuels. Et c'est-à-dire que on est soi-disant dans un monde qui est fait de contrats et d'engagements. Moi je comprends pas.
Qui est spéculation là-dessus, c'est terrible. Moi
bien
je trouve que c'est scandaleux. Et par contre, il y a une chose aussi qu'il faut dire sur le Covid, c'est que tous les résultats normalement, il y a aucun système de protection
des données
au niveau mondial. C'est-à-dire que tout le monde doit mettre le fruit de ses recherches dans le pot commun.
Ah oui, d'accord, ok. Je te suivais pas. D'accord.
C'est quand même aussi.
On va.
Moi,
c'est
je
la
suis à peu près
que
persuadé
c'est...
qu'il y a des protocoles d'accord secrets entre l'État d'Israël et les grandes boutiques pharmaceutiques au niveau des productions pour favoriser effectivement cet État particulier, comme vous le savez.
Moi, je crois pas du tout.
Non, moi, franchement,
c'est un autre monde. Ça, j'ai aujourd'hui Israël, ils ont juste payé quoi. Qu'est-ce que tu
dis, voilà, ils ont mis le paquet, ils ont payé deux ou trois fois le prix.
D'ailleurs, les États-Unis ont payé beaucoup plus cher que
aussi.
L'Union européenne. Ils sont à 13% de vaccination.
Voilà.
Tu vois, je veux dire,
ils avaient l'argent pour le faire. Nous,
on n'a pas mis les moyens. Mais en même temps, on avait négocié correctement. On a d'ailleurs été les premiers. Donc il n'y avait pas de raison.
Et on va terminer avec une dernière question. Le fait qu'aujourd'hui, visiblement, on a mis de côté des volontés d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner tout le pays il y a quelques semaines. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la politique a réussi à prendre le pas sur, on va dire, le sanitaire. Est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui, selon toi, de confiner par département, par ville, par région, plutôt que de dire « allez, on ferme tout ».
Moi, pour le coup, je suis plutôt de l'avis aussi de Bruno. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il faut arrêter de tout fermer et de dire que on va arrêter l'économie en permanence. C'est-à-dire que sinon, ça ne reprendra jamais, premièrement. Et deuxièmement, la catastrophe sociale, elle sera pire que la catastrophe sanitaire au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça va être... Et les comptes publics ne sont pas extensibles à souhait. C'est-à-dire qu'on va pas arriver pendant des années et des années à compenser. Donc moi, si on arrive à... Et pour le coup, il faudra être en mode expérimental. C'est-à-dire que si le confinement d'un département,
ça
sur le week-end, etc.,
dans le nord
ça a des
sud,
tendances à faire baisser, il faudra en faire un modèle. Pour le coup, il faut être pragmatique. Si ça marche... Il faudra le reproduire. Si ça marche pas, il faudra sans doute revenir à d'autres méthodes. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On peut faire des micro-confinements, des grands confinements. À un moment, il va falloir se poser la question de savoir comment on vit avec le virus.
Oui. Surtout que Emmanuel Macron, si je me souviens bien, une de ses premières interventions il y a donc un an, ça a
le
été
monde
de
d'après.
Dire non, ça a été de dire tout simplement, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec le Covid. Donc qu'on apprenne à vivre avec le Covid.
Quand tu regardes les enfants, comment ils vivent et tout, bon, bah, c'est des gens, ils sont plus adaptables, hein, évidemment, ils sont petits, mais tu vois, ils se sont fait un monde nouveau avec des masques, avec un peu de distanciation et tout. En revanche, les privés, si tu veux, par exemple cet hiver de ski, les privés, alors que c'est en extérieur, les privés d'activités qui, pour le coup, sont beaucoup moins sensibles et tout, je pense que c'est là qu'on commence à faire des erreurs. Tout fermé, tout clôturé, laisser les gens, par exemple, s'agglutiner dans les transports en commun pendant que les opéras, les théâtres sont fermés. Est-ce que vraiment mettre tout le monde dans des supermarchés pendant que on ferme des activités sportives, etc. Est-ce que ça, c'est logique? Ça, j'en suis pas bien certain. Je pense que pour que tout ça soit compréhensible et qu'on puisse vivre avec, il faut recréer en fait des formes d'équilibre et repenser la façon dont on vit avec ce truc.
Je pense que le but, c'était uniquement, enfin je pense, d'éviter le brassage. Donc voilà, donc ils ont essayé d'éviter tout le brassage en gardant uniquement le seul brassage qui existe et qui permet d'aller travailler. Autrement dit, le métro...
Oui, mais tu prends un TGV, tu passes 3 heures à côté d'une personne qui a le virus, tu le chopes évidemment. Donc si tu veux...
Non mais bien sûr, mais ce que je te dis,
donc
c'est
le brassage, il existe.
Oui, mais justement... Ils ont essayé d'éviter le plus possible le brassage en supprimant donc tout ce qui était pas essentiel,
il
a été
pas
dit.
Essentiel.
Mais d'un autre côté,
mais en fait, ça va devenir un moment essentiel.
Pour la santé mentale de tout le monde, il commence à devenir essentiel, quoi. Et c'est là où on se rend compte.
Je crois.
Et ils vont certainement devoir faire machine arrière, arriver un moment. De toute
manière.
Non,
mais c'est sûr. Mais quand on va voir les conséquences, tu vas voir.
Le phénomène va s'inverser parce que les gens, à force de les contraintes, de les priver de liberté, à un moment donné, dès qu'ils vont en avoir un peu, ça va exploser dans tous les cas, dans tous les sens. Il vaut mieux, à un moment donné, moins confiné, mais en se basant un petit peu sur ce que j'appelais à un moment donné, la responsabilité collective, en disant, soyez plus prudents. Mais si on contraint trop, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une explosion sociale et qui aura des conséquences sur le niveau sanitaire de la population, c'est sûr.
Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter.
Non, mais on sera tellement, tu sais, le jour où on va ouvrir les cinémas, les bars et tout, t'imagines.
Qu'est-ce que c'est? Oh, un cinéma! Oh, un bar! Oh, c'est trop bien.
On sera heureux.
Passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.